Et parfois, moi, je m'entraîne à voir au-delà des apparences. Rarement, je prends le métro, mais quand je le fais, de temps en temps, je regarde le wagon entier, je me dis à l'intérieur, tous des dieux. Et j'essaye de voir ce que mon ego place de côté en disant, oh, mais pas lui quand même, si, lui aussi. Oh, mais pas cette personne bien en chair, si, elle aussi. Alors parfois ça prend un petit temps jusqu'à ce que le regard puisse changer, et ce temps, il correspond pour moi au calme qui est nécessaire pour que la surface du lac qui était agitée redevienne calme, redevienne limpide, que les eaux redeviennent limpides parce qu'elles ont été agitées. Et notre ego, en fait, c'est l'agitateur des eaux limpides. Pourquoi dans ces réunions comme celle d'aujourd'hui et toutes les autres réunions qui sont basées sur notre vérité, donc il y en a de multiples, pourquoi avons-nous la plupart du temps l'impression que quelque chose descend sur le groupe, quelque chose de doux, de tranquille, mais en même temps de très bénéfique, de très accueillant, de très doux, de très aimant. Parce que nous arrêtons de jeter des cailloux dans la mare, dans l'étang. Et à la question « Où est l'amour ?», la réponse est « Partout ». Partout, j'arrête d'agiter, j'arrête de brasser les événements. Et je les laisse se produire en les embrassant plutôt qu'en les mettant dans des catégories. Donc je peux surveiller mes pensées. Et puis, donner du poids, donner mon accord aux pensées vraies, aux pensées justes, et laisser aller les autres, ça demande de l'entraînement. Et laisser aller, ce n'est pas s'opposer. C'est, bon, ben là, je suis dans le jugement, cela aussi passera. Là, je suis dans la peur. Cela aussi passera. Là, je suis dans le désir de me venger. Cela aussi passera. Mais l'amour ne passera pas. Donc quand je laisse passer ces choses temporaires qui m'agitent de temps en temps, ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre 10 ans. Mais ça passera. Si je suis grippé, ça aussi passera. Une semaine plus tard, avec ou sans antibiotiques, ça passe. Si je me fixe contre la grippe, si je m'oppose à la grippe, d'une certaine manière, j'alimente l'énergie de « je suis malade ». Quelques mots qui suit « je suis » est puissant. Et ça déclenche la grande photocopieuse de l'univers qui me dit « combien d'exemplaires tu en veux ? Appuie sur le bouton par 10, par 100. Tu veux encore une petite semaine de grippe ? Appuie sur le bouton. Voilà. Et je suis dans l'abondance aussi. Combien d'exemplaires ? Bouton vert, hein, tu appuies. L'univers exécute, photocopie tout ce qui suit, je suis. Donc, Le changement de regard, il est intérieur, hein, il est vraiment intérieur. Et c'est pas ce que je fais, encore une fois, c'est comment je le fais. Et puis de temps en temps, ben, je suis guidé dans le métro à ne pas me plonger dans un livre, à ne pas écouter de la musique, à ne pas être noyé dans mes pensées, mais simplement à être là, à accueillir par le regard les personnes qui entrent dans le wagon, à embrasser leur réalité, à accueillir par le regard le voisin, la voisine, éventuellement à croiser les yeux, et simplement être un espace d'instantanéité, d'intuition, précieux, de découverte, de surprise, qui ne peuvent se dérouler que dans l'instant et dans la volonté qui est, je ne cherche pas à m'échapper de l'instant présent. Et quand je dis l'instant présent est, instantanément, je quitte aussi le mental, parce que le mental ne peut pas exister dans l'instant présent. Il se réfère tout le temps à ce qui va arriver ou à ce qui s'est déjà produit. Mais dans le moment présent, disait Krishnamurti, il n'y a absolument aucune peur. C'est impossible d'avoir peur dans l'instant présent sans la relier à une mémoire ou sans la relier à une projection. Donc c'est intéressant, hein, revenir à l'instant présent, c'est redevenir comme Dieu. Cela est. Cela est et Dieu est, c'est la même phrase. Cela, c'est toute l'existence du moment présent. La personne entre dans le wagon, c'est la totalité de mon expérience à cet instant-là. Et je suis 100% présent. Et je peux être guidé à réagir, à pas réagir, peu importe. C'est ce que je vis. Donc, dans ces réunions, nous appelons le calme. Et dans le calme, la conscience de la présence de l'amour revient à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que nous cessons d'alimenter l'agitation. Pourquoi ? Parce que nous nous rappelons qu'au fond de nous-mêmes, nous avons profondément envie d'être calme, envie d'être heureux et heureuse. Ce calme-là, c'est notre bonheur. Il n'y a rien besoin dans ce calme, c'est complet. Et nous nous rappelons aussi que dans ce calme, ben, notre nature se révèle pleinement. Donc il ne s'agit pas de chercher l'amour, il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur faire des choses, il s'agit de permettre que l'amour s'exprime. Permettre, c'est arrêter de s'opposer à, c'est arrêter d'agir. C'est pour ça, entre autres, que on peut se retirer pour méditer. C'est pour ça qu'au milieu d'une crise, d'une chose difficile, prendre un instant de retrait avec soi-même, ça peut être extrêmement ressourçant pour être guidé à agir d'une manière juste et non pas sous l'emprise des émotions. Et dans ce calme-là, je suis assuré que je suis connecté à ma nature profonde. Ça peut prendre un moment avant que ça soit réellement calme, avant que les eaux retrouvent leur profondeur et limpidité. Et moi, j'ai une scène mémotechnique que je donne de temps en temps dans les groupes de méditation. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, imaginez que vous êtes un grand lac de montagne avec des eaux bleues et pures, profondes, profondes. Et même si le vent ride un peu la surface, et même si il pleut et il y a des gouttes qui créent des perturbations, descendez dans la profondeur du lac. Descendez, descendez, descendez. Descendez à 100 mètres, descendez à 200 mètres, descendez à 300 mètres. Quel que soit l'état de la surface, à 300 mètres, c'est toujours complètement tranquille. À tout moment dans votre vie, vous pouvez vous réfugier dans cet endroit tranquille en vous qui ne vous quitte jamais. Vous le portez en vous. Et je laisse tout ce qui est apparemment agité et j'entre dans ma profondeur et dans cette pureté, dans cette limpidité des eaux, je suis moi-même. Et dans ce calme-là, si j'ai besoin d'un mot, il me sera donné. Si j'ai besoin d'une intuition, elle me sera donnée. Si j'ai besoin d'une guidance à agir, elle me sera donnée. Si j'ai besoin d'une guidance à ne rien faire, également, elle me sera donnée. Donc, j'ai un chez-moi qui est dans mon cœur, qui est profond, qui est hors du monde, et dans lequel je peux me retrouver juste en décidant de plonger dans mon intériorité sacrée, dans ce qui n'est jamais perturbé. Voilà, beaucoup disent que les divinités ont cherché à cacher la divinité de l'homme, et ils ont essayé en maints endroits, mais finalement ils ont préféré la cacher à l'intérieur de l'homme, parce que c'est là où il ne pensa pas aller chercher. Le moment est venu de nous tourner vers l'intérieur, tout simplement parce que nous ne pouvons pas perdre ce trésor qui est caché en nous, puisqu'il n'y a que lui qui existe. Il est invulnérable et a toujours été et sera toujours. Il est qui je suis, et tout le reste est une manière de jouer à autre chose. Et quelle que soit la situation dans la vie, si elle est pénible, si vous êtes en couple et que vous vous disputez, ne restez pas en face de la perturbation. Retirez-vous. Retirez-vous et faites un séjour au plus profond du lac. Vous ne pouvez pas le perdre. Il ne peut pas ne pas être en vous. Autorisez-vous à quitter la situation. Et quand vous êtes perturbé par le jugement de quelqu'un, j'ai peut-être des choses qui me viennent, mais j'attends un peu. J'attends un peu parce que mon ego m'inspire l'attaque. Et lorsque je me retire en moi, je pourrais voir qu'à travers ce que l'autre me renvoie qui me semble difficile, l'autre me dit « Je me sens pas aimé. » Alors je te le renvoie très maladroitement. je te le projette. Je le projette sur toi très maladroitement. Et donc j'exprime un appel à l'amour, un appel à ce que tu m'aimes. Si je me sentais aimé, je n'aurais absolument aucune raison au monde pour t'agresser. Au contraire, j'ouvrirais les bras et nous ririons ensemble comme des frères et sœurs qui se retrouvent après une longue séparation. Et donc, évidemment, l'autre qui m'agresse se sent coupé de sa source d'amour. Et quand je peux entendre ça, quand je peux entendre dans son apparente agression son appel profond à être aimé, à être connecté à l'amour, c'est plus possible de l'attaquer. C'est plus possible de renvoyer quelque chose de désagréable ou un jugement. Et moi j'appelle ça, je me mets dans ses baskets. Comment je me sentirais maintenant à sa place et de quoi j'aurais le plus besoin maintenant pour me sentir mieux? Pas d'amour. Qu'est-ce qui compte le plus au monde? D'être heureux et d'être aimé et d'aimer. Ce changement de regard, c'est le pardon, le vrai pardon. Toi qui sembles m'agresser, tu es mon frère d'amour, tu es ma sœur d'amour. Et je reconnais ton besoin profond d'être connecté à la seule source qui soit. Et j'honore ce besoin profond malgré les apparences, malgré le jeu que tu joues. Et je reconnais le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire non réel. Et lorsque je le reconnais, je peux rire avec toi. Et je peux ouvrir les bras et te retrouver, même si ça se passe que dans mon état d'esprit. Je pardonne à l'intérieur pour changer le monde et pour changer ma vision. Et quand ma vision change, assurément, ma perception du monde change aussi. Donc le premier pas est le début, le premier pas est la fin. Le premier pas est le seul pas, disait Krishnamurti, et moi je rajoute, le seul pas est un changement de vision à l'intérieur. Je laisse l'extérieur complètement inchangé. Il changera par voie de conséquence, ce n'est pas à moi d'agir sur l'extérieur. Mon rôle à moi, c'est de changer mon état d'esprit. Oui, cher frère d'amour, chère sœur d'amour, tu as voilé ta lumière, mais je n'ai pas oublié qui tu es. Je perçois à travers l'obscurité que tu sembles émaner, je perçois ta lumière qui n'est pas complètement masquée, et j'honore cette lumière en retour. Et nous nous réjouissons d'être tous les deux cela. Et je ne peux plus porter aucune blessure lorsque j'ai retrouvé la lumière de ce frère et ma propre lumière à ce moment-là. Et le monde est pardonné. En même temps que ce frère et que moi-même, je me suis pardonné d'avoir cru que je pouvais être attaqué, que je pouvais être vulnérable, qui est aussi une fausse pensée. Et la leçon que j'ai tirée dans le panier, 342, je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Et quand je pardonne la situation, quand je pardonne le frère, c'est moi aussi que je pardonne. Il n'y a pas de séparation. Je pardonne mon frère comme moi-même. Et nous rions tous les deux, puisque rien ne s'est produit dans la réalité. Et le calme que je peux contacter à ce moment-là, cette lourdeur qui s'est envolée, cet éclat de rire qui surgit, c'est ma vraie nature. Mais ce qui m'appartient, c'est de l'appeler, de me retirer, de l'inviter à se révéler à moi. Et quelle que soit la situation, c'est toujours possible, même 10 minutes après, même 10 jours après, même 10 ans après, même 100 vies après, c'est toujours possible de se rappeler de la réalité, de la lumière qui était là, bien masquée dans cette situation. Et quand je fais ça, comme disait Sylvain, je guéris le passé, je guéris la situation, je me guéris moi-même et je guéris toute l'humanité, toute la filialité, puisqu'il n'y a qu'un, il n'y a pas 7 milliards, il y a 7 milliards de facettes de l'un, qui sont toutes interconnectées et guéries ensemble lorsque moi je guéris ma perception fausse que l'autre pouvait me nuire, que l'autre pouvait me rendre triste ou vulnérable. Je nous aime.